Facebook, j'écoute ça au lieu d'écouter TikTok.
Comprends. Hey, c'est la tournée des politiciens aujourd'hui. Ça nous fait plaisir de l'accueillir. Je l'aime bien. C'est Pascal Paradis, le député du Parti québécois dans la grande région de Québec. Monsieur Paradis, bon matin.
Bonjour à tous les trois, ça va bien?
Oui, merci d'être là. On avait tout à l'heure Benoît Charrette, qui est ministre des Transports en studio. Il est aussi ministre de la Mobilité durable. Puis on parlait du fameux troisième lien. Et là, j'ai posé une question à M. Charrette, à savoir, ça devait dans le cas où la CAQ ne repasse pas aux prochaines élections et c'est le PQ qui arrive en place, est-ce que le PQ va être obligé de continuer avec l'appel d'offres de la Coalition Avenir Québec? Je vous pose la question. Est-ce qu'on pourrait revenir sur notre façon de faire les choses au PQ? Parce que vous m'avez dit que le troisième lien, c'était vraiment pas une priorité.
On continue à le penser parce que ce n'est pas la bonne solution au problème réel de circulation qu'il y a à Québec.
Pourtant, vous êtes un gars de Québec, M. Paradis. Caroline, vous êtes toujours bête dans le trafic le samedi et le dimanche comme tout le monde.
Je suis non seulement un gars de Québec. Je suis un gars de Sainte-Foy et Sillery. Je suis le député de Jean Talon. Et Jean Talon, actuellement, c'est au cœur des problèmes de circulation de la ville de Québec. Parce que pensez-y, de la tête des ponts, là, donc l'entrée et la sortie du pont de Québec, du pont Pierre-Laporte, c'est dans ma circonscription. Henri IV, Duplessis, Robert Bourassa, ça passe dans Jean Talon. Saint-Louis, Champlain, Laurier, Quatre-Bourgeois, Sainte-Foy, ça passe tout dans Jean Talon. Alors moi, comme député, il faut que je la prenne, ma voiture. Puis je peux vous dire que je suis un gars de la capitale nationale normale. Je bougonne dans ma voiture quand je suis stationné sur l'autoroute.
On est deux.
On n'est pas juste deux, Yannick. On est plusieurs, vous le savez, à vivre ces problèmes-là.
Donc là, il va vous rester à convaincre Paul Saint-Pierre Plamondon d'y aller de l'avant avec le troisième lien.
Vous le savez aussi, Yannick, je vous l'ai dit plusieurs fois, vous avez au téléphone avec vous aujourd'hui. Je pense un des rares, là, j'ai toutes lu les études, puis j'ai toutes regardé les données. J'ai fait ce que la vérificatrice générale du Québec nous a demandé puis nous a rappelé là, de faire il y a deux semaines. Vous en souvenez, le rapport sur la filière batterie? Qu'est-ce qu'elle a dit, la vérificatrice générale? Elle a dit, vous, les politiciens, là, avant de jouer avec les centaines de millions de dollars des Québécois, faites pas comme le gouvernement de la CAQ qui a décidé d'investir... En fait, de parier l'argent des Québécois sur le base du pif, puis de dire « Ouais, on pense que ça va être bon, ça, mais qu'il n'y avait pas de plan. »
Ah, mais là, on ne comparera pas, Nordvolt à un nouveau lien. Là. On ne comparera pas Nordvolt à un nouveau lien à Québec, alors qu'on a deux ponts vieillissants qui sont sursaturés, qu'il y a un pont de Québec qui a 110 ans, le pont Pierre-Laporte qui a été conçu pour 90 000 passages quotidiens, qui en supporte 120 000, qui vieillit très mal. Ça n'a rien de comparable, là.
Bien, ça a tout de comparable, parce que je vais continuer, là, je vais vous dire aussi, HEC, Hautes études commerciales, à Montréal, ils ont un département sur la productivité et sur les grands contrats, ils ont analysé les grands projets d'infrastructure dernièrement, dont celui du troisième lien, dont celui du tramway, dont celui du REM, puis ils ont dit, le problème, c'est que la CAQ a politisé ces projets-là, puis les a fait avancer ou pas avancer sur la base d'une vision politique plutôt que sur la base de données. Est-ce qu'on a les bonnes solutions qui vont répondre aux bons besoins?
Mais on va-tu se croiser dans le tramway la fin de semaine, M. Paradis, pour aller faire notre épicerie, puis aller faire un tour aux galeries de la capitale pour prendre ensuite un autobus, puis revenir avec nos sacs dans le tramway?
On va-tu se croiser là? Ça va arriver, parce que je vous annonce...
Ça n'arrivera jamais.
Je vous annonce que Québec, ça va être comme toutes les villes du monde qui n'avaient pas de système de transport collectif structurant. Puis là, dans le monde, qu'est-ce que tu veux? Tu sais, ça n'arrive pas à l'heure, ça t'amène pas où est-ce que tu veux, c'est pas confortable. Quand t'en as un, les gens se rendent compte que c'est bien plus pratique de le prendre. Ils le prennent. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Il y a moins d'autos sur les routes. Fait que quand tu as besoin de prendre ton auto, comme moi, ça m'arrive, comme vous, ça vous arrive, ben là, t'es pas pogné dans le même genre de circulation. Fait que, donc, ça, c'est une partie de la solution. C'est celle-là. Hey, rappelez-vous, là, ça fait pas si longtemps, il y avait un bureau de projet sur le troisième lien. Il y était des dizaines qui ont été payés des années pour étudier ça. Vous vous en souvenez, c'est quoi leur conclusion à eux? Ils ont travaillé des années juste là-dessus. Ouais. Vous vous en souvenez, c'est quoi leur conclusion?
Mais expliquez-moi, M. Paradis.
Attendez, dites-le pour les auditeurs. C'était quoi leur conclusion à la fin de leur travail en 2023?
Est-ce que dans leur...
Ce n'est pas la bonne solution, puis ça va être un fiasco financier.
Rappelez-moi qui a fait cette étude-là.
Mais c'est des gens qui étaient payés pour faire ça. Il y était des dizaines au bureau de projet.
Puis, à Montréal. Bureau de projet à Montréal.
Non, c'était à Québec. Le bureau de projet sur le troisième lien, il était à Québec.
Ouais, on ne l'a jamais trouvé, le bureau de projet. Là. Il n'y avait
pas
d'employé.
Le bureau de projet sur le troisième lien, il était à Québec. C'est des dizaines de personnes qui ont été... Ça a été mis en place sous un gouvernement. Ça a été continué sous le gouvernement. Et ils ont conclu que c'était pas la bonne solution. Ouais. Puis il y en a d'autres des solutions. Vous savez, vous m'avez déjà entendu parler de ça, notamment dans la campagne dans Jean Talon. Ouais. C'est pas ça, les études sont pas terminées là-dessus, je vous le donne.
Puis il y avait aussi les fameuses études là sur le tramway de Québec, comme quoi c'était le meilleur moyen, puis que eux, ben, c'était pas leur mandat d'étudier pour le troisième lien, mais que le troisième lien, c'était pas la meilleure façon de régler le problème de congestion. Mais je reviens à ma question.
Vous voulez dire l'étude de CDPQ?
Qu'est-ce qu'ils construisent, CDPQ? Ils construisent des tramways.
L'étude de CDPQ a analysé les six corridors envisagés. Ils se sont longuement penchés sur le troisième lien et ils ont conclu quoi? Qu'il n'y a aucun des six corridors proposés, dont l'avant-dernier de la CAQ, puis le dernier, parce que la CAQ change tout le temps, là, tritube, bitube, etc.
Ça, c'est vrai.
Et ils ont conclu qu'il n'y en a aucun.
Oui, mais c'est des PQ, ils construisent
attendez,
pas...
Laissez-moi finir, parce que c'est important, il faut que les auditeurs l'entendent.
Allez-y.
Ils ont conclu, c'était au cœur de leur étude, ils ont conclu qu'il n'y en a aucun qui va régler les problèmes de circulation intérieure.
Puis ils construisent quoi, ces DPQ? Ils construisent-tu des ponts? Ils construisent-tu des tunnels?
Bien, au départ, c'est un groupe d'analystes qui sont spécialisés là-dedans puis qui ont tout relu ce qui s'est écrit depuis des décennies à Québec. Ils ont parlé à tout le monde puis ils ont conclu que c'est pas ça la solution puis que ça va coûter trop cher, donc ça va être un... Ça va faire comme d'autres projets où on a investi des centaines de millions, puis c'est de l'argent gaspillé, et surtout, ça ne sera pas la solution.
C'était pas payant pour eux autres.
Ben, s'il n'y a rien qui dit qu'il n'aurait pas été les opérateurs.
C'était pas payant pour eux autres, M. Paradis. Mais je veux juste vous poser ma question.
Yannick, moi, le jour où vous allez me dire que vous avez une étude crédible, parce qu'oubliez pas, moi, je suis. Vous demandez aux politiciens qu'on travaille comme il faut.
Oui.
Puis toute la vérificatrice générale, puis les hautes études commerciales, puis tout le monde, toutes les études dans le monde nous disent une chose, les politiciens, il y a une affaire, quand vous êtes avec l'argent des contribuables, assurez-vous que vous travaillez sur la base de données fiables, puis que vous proposez les bonnes solutions, parce qu'il est durement gagné cet argent-là des Québécois, fait que faites attention, moi je vous dis... Ce qu'on doit faire, c'est justement ça.
Moi, je surveille beaucoup les intérêts de ceux qui vous donnent des données, là, je vais vous dire bien franchement. Monsieur Paradis, je veux vous poser une question depuis 5 minutes. Pouvez-vous y répondre? Parfait. Depuis les années 80 que je suis en vie, que je suis conscient de ce qui se passe un peu autour de moi, que le transport en commun, ma mère était monoparentale, donc vous comprendrez que dans les années 80, monoparentale, on n'avait pas de voiture, donc on était dans le transport en commun. Année après année, on mettait toujours un petit peu plus d'argent dans le transport en commun. Puis aujourd'hui, les réseaux de transport de la capitale est bénéficiaires de l'argent du public et sont pas capables d'arriver dans leur argent, malgré le fait qu'année après année, on met encore plus d'argent, on modifie les autobus, on met des autobus dernier cri, les chauffeurs ont des bons jobs, c'est du 80-100 000 par année s'ils font du temps supplémentaire, puis il n'y a jamais eu plus que 6 à 8 de la population de Québec qui ont pris le transport en commun. En quoi le tramway va amener plus de monde dans le transport en commun si depuis les années 80, on met des millions et des millions supplémentaires et ça n'a jamais changé?
C'est tellement une bonne question. Je vais vous répondre en deux étapes. La première, c'est que vous dites on met beaucoup d'argent dans le transport collectif, mais vous savez qu'on en met bien plus dans le réseau des routes et des infrastructures routières.
Ouais, ça, c'est vous qui avez fait ces choix-là. C'est les municipalités qui avaient fait les choix d'ouvrir certains quartiers parce qu'on voulait donner des lopins de terre aux gens. Une fois que vous avez pris vos décisions, vivez avec. Là. Moi, je vous donne mes taxes, je vous donne mes impôts. Vous êtes supposé, quand je dis vous, c'est pas vous personnellement, là, mais
le point,
au provincial, vous êtes supposé bien gérer mon argent.
Là. Le point ici, c'est que les auditeurs doivent bien comprendre qu'on peut pas dire « Ah, on met de l'argent dans le transport en commun puis on n'en met pas dans les infrastructures de transport. » Donc, les véhicules, les voitures, les routes, on roule sur des infrastructures qui coûtent une fortune, qui sont payées par l'État. Puis là, vous me dites pas « Ben là, est-ce qu'on avait assuré qu'il y avait de la rentabilité, etc. » Donc, là, on investit beaucoup plus dans les routes et les infrastructures pour les voitures que pour le transport en commun. Mais oui, vous avez raison. On investit dans le transport en commun puis on voit que il pourrait y avoir une utilisation beaucoup plus importante des transports en commun.
On va se le souhaiter. Moi, je souhaite que vous ayez raison. Non, mais c'est moi que je souhaite que vous ayez raison. Mais 100% des gens utilisent les routes, même si c'est des piétons ou si c'est des gens qui prennent le transport en commun.
C'est pour ça qu'on en a besoin.
Ils utilisent les routes. On a des livreurs qui viennent porter notre stock. On a des camionneurs qui viennent porter du stock.
Oui,
fait que c'est normal que 100% de notre argent serve aux routes. Mais c'est moins de 10% des gens qui prennent le transport en commun. Puis je m'excuse, là.
C'est parce qu'on n'a pas encore à Québec un véritable système de transport collectif structurant, que généralement des villes de l'envergure de Québec, ils en ont un. Nous, on n'en a pas encore. Et c'est toute la différence du monde, parce qu'il y a plusieurs villes. Puis vous le savez, là, j'ai travaillé dans plusieurs pays du monde, et quand un bon système de transport collectif, les gens veulent même pas prendre leur voiture parce que c'est plus compliqué de prendre la voiture, puis ça va plus vite, c'est plus confortable, c'est plus sécuritaire, c'est peut-être plein de raisons de prendre le transport collectif. À Québec, on n'est pas rendu là encore parce qu'on n'a pas encore le bon réseau de transport collectif structurant, et c'est ça l'objectif de ce qu'on est en train de faire, c'est d'en avoir un pour que qu'il va se passer la même chose à Québec que partout ailleurs dans le monde. Quand il va être là, les gens vont dire « c'était dur, c'était controversé, on s'est posé plein de questions, mais là, ça tristit, ça marche, c'est confortable, c'est à l'heure, c'est pas pogné tout le temps dans le trafic, comme les autobus actuellement à Québec. » Fait que là, il va y avoir plus de gens qui vont prendre le transport en commun, et donc moins de voitures sur les routes. C'est ça la solution de l'avenir. Puis il y a des centaines de villes qui sont passées par là, ailleurs dans le monde, et c'est ce qui s'est passé. Souvent, après des débats, j'allais dire aussi acrimonieux, mais on n'est pas pire à Québec, on est encore dans les meilleurs quand on fait quelque chose, presque aussi acrimonieux qu'à Québec, souvent. Puis j'en ai vu là, des villes là, où j'étais là pendant que ça se construisait, puis là, les gens disaient « ouais, est-ce que ça va marcher? » Quand c'est là, ça fonctionne, les gens le prennent, puis oui, ça se pourrait bien, M. Marceau, qu'on se croise, vous et moi, dans le tramway dans quelques années, puis qu'on se dit « Colin, on n'avait pas ça avant, c'est toute la différence. »
Moi, j'ai enregistré le dernier segment, M. Paradis, quand on va se reparler, quand on va être trop vieux dans 20 ans, je vais vous achaler avec cet audio-là. Vous aurez pas, vous n'avez pas idée à quel point je vais vous achaler. Pascal,
vous allez me le faire écouter quand on sera bien assis là, dans le tramway.
C'est ça, ou on va être au Tim Hortons en train de prendre un café puis chialer sur la nostalgie. Tiens. Pascal Paradis, député de Jean-Talon pour le Parti québécois. Faites-moi vibrer là, avec le fameux livre bleu qui a été dévoilé cette semaine.
Je suis tellement fier de cet exercice-là qui démontre aux Québécois, tu sais, c'est 524 pages, là, puis c'est super fouillé, étudié, ça a été travaillé pendant des années là, par beaucoup, beaucoup de monde, des grands experts, puis ça montre, ça trace les contours de ce que c'est un Québec pays. Puis ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'en réalité, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, c'est la normalité des nations du monde, qui, au fil des dernières décennies, là, il y a beaucoup plus de pays là, qui ont assumé leur indépendance. Si vous regardez la carte du monde, il y a beaucoup plus de pays aujourd'hui qu'il y en avait il y a 50 ans, qu'il y en avait il y a 100 ans, etc. Et on décrit là-dedans la normalité de ce que serait un Québec-pays, sans prendre parti là, sur, tu sais, ça va être quoi les politiques publiques en éducation, en santé, parce qu'après ça, on va être un pays normal, les gens vont décider, vont élire des gouvernements qui vont proposer des programmes. Mais ça dit, ben, ça marche comment, là, un pays indépendant qui a toutes ses finances publiques à lui, qui contrôle ses frontières, qui assure sa sécurité, ses relations internationales, qui lève tous ses impôts au lieu d'en envoyer 50% à son voisin. Moi, j'invite les gens vraiment à aller le regarder. Des fois, les gens sont intéressés plus par un chapitre que par l'autre. Mais là, nous, on a tenu promesse, parce que les gens se posent tout le temps plein de questions. On a dit, ben, tu sais, cette fois-là, on va faire un exercice de transparence. Fait qu'autant on prépare un gouvernement, hein, parce que les gens nous disent, ah, des fois, tu sais, les gens, c'est d'une semaine à l'autre, la question change. Une semaine, c'est, ah, oh, vous parlez tout le temps d'indépendance, puis la semaine d'après, c'est, vous parlez jamais d'indépendance. L'affaire, c'est qu'on fait les deux. Donc, on prépare notre programme de gouvernement, puis vous le savez, on a des propositions dans tous les domaines, éducation, santé, économie, sécurité, etc. Ouais. Puis en même temps, on a dit aux gens, voici, c'est ça la vision de ce que ça pourrait être un pays.
L'indépendance du Québec amènerait des économies administratives allant de 13 à 16 milliards de dollars. Ce qu'on nous mentionne, c'est qu'il y a 77 % des quelques 230 organismes fédéraux qui devront être abolis ou encore fusionnés à la fonction publique québécoise. Ça, il va y avoir probablement des pertes d'emplois au niveau des fonctionnaires fédéraux au Québec. Là.
Bon, mais d'abord, c'est l'indépendance, vous l'avez dit, là, c'est la plus grande opération de débureaucratisation puis de simplification administrative et réglementaire de l'histoire du Québec. Ça, les gens oublient de le mentionner, mais il y a un palier de gouvernement de trop. Là, je veux dire, la plupart des ministères fédéraux reproduisent les ministères du Québec. Là, tu sais, il y a un ministère fédéral. Imaginez, il y a un ministère fédéral de l'enseignement supérieur, de la santé, etc. Donc, ça, c'est d'un côté. Et vous le savez, historiquement, le Parti québécois, sur les emplois de la fonction publique fédérale, disait, oui, on va retrouver, l'ensemble des fonctionnaires fédéraux vont pouvoir retrouver un emploi dans la fonction publique québécoise. La situation a bien changé depuis notamment le dernier référendum, notamment parce qu'il y a eu une croissance, mais absolument stratosphérique de la fonction publique fédérale, là, une croissance notamment sous le gouvernement libéral fédéral actuel.
Ah, même ici au Québec, avec des promesses de François Legault en 2018 de réduire le gouvernement, il a augmenté ce gouvernement-là. Il y a plus de fonctionnaires depuis 2018.
Vous avez raison.
Alors qu'il nous avait promis le contraire.
Vous avez raison. Selon les derniers chiffres, j'ai questionné la présidente du Conseil du Trésor, Françoise Duranceau, là, lors des dernières études de crédit. Puis c'était moins 5 000, hein, leur promesse, au moins, au début, en 2018. Puis là, on serait rendu à plus 8 000, mais uniquement dans les ministères. Parce qu'en même temps, la CAQ a fait le contraire de ce qu'ils avaient dit, c'est qu'ils ont créé plein de nouvelles structures.
Oui.
Par exemple, Santé Québec, Mobilité Infra-Québec, etc., où on sait aussi où on embauche beaucoup de très hauts fonctionnaires. Donc,
c'est des salaires supplémentaires, c'est des fonds de pension supplémentaires, puis j'ai pas l'impression qu'on a un retour sur l'investissement.
Mais la situation, là, vous allez me dire, bon, oui, c'est un souverainiste qui parle, c'est vrai, mais les chiffres sont là. D'ailleurs, dans le livre bleu, là, tout ça, c'est chiffré, puis c'est pas des chiffres que nous, on sort. Là. On regarde les documents du gouvernement fédéral, Statistique Canada, et là, vous voyez là, les courbes de croissance de la fonction publique fédérale. Là, ça n'a même rien à voir avec ce dont on est en train de parler au Québec. Là. C'est stratosphérique ce qui s'est passé au fédéral. Puis, tu sais, il n'y a à peu près pas de nouveaux services qui sont livrés. Donc, nous, on dit, ben, ça va être une grande opération de simplification administrative, financière, l'indépendance du Québec. Puis ça, c'est un des nombreux aspects là, dont la démonstration est faite. Puis encore une fois, là, vous allez voir, là, chaque chapitre, c'est 50, 60 notes de bas de page parce que c'est basé sur des analyses, des données. Nous autres, on n'a pas dit on va fleurir tout ça puis on va prendre des chiffres qui sortent de nulle part. C'est vraiment basé sur de la documentation neutre ou en tout cas indépendante qui nous permet ensuite de démontrer que les Québécois ont le choix. Soit on continue à être dans ce bateau-là du fédéralisme, avec notamment les données qu'on démontre sur la simple démocratie, tu sais, puis la perte de destin, qu'on décide de moins en moins à Ottawa. Tu sais, notamment, on montre le nombre de votes du Québec dans les décisions fédérales. Là, puis c'est une courbe qui est absolument dramatique. Même chose pour la population. Alors, c'est donc un pays qui se définit, le Canada, qui se définit de plus en plus indépendamment du Québec. Donc, des décisions qui sont prises ailleurs, pas dans notre intérêt. C'est ce que le livre bleu démontre partout. Ou alors, on fait comme tous les peuples normaux sur la planète, on fait comme toutes les nations qui ont assumé leur destin puis qui prospèrent, puis ont choisi de décider par nous-mêmes. Et je vous annonce quelque chose à tous les trois. Dans l'histoire du monde, il n'y a jamais aucun pays, il n'y a jamais aucune nation qui a obtenu son indépendance puis qui regrette après puis qui dit « Ah, oh, mon Dieu, j'aimerais ça retourner dans l'Égypte, d'autres personnes qui vont décider en ma place. » Personne, y compris plein de pays de la taille du Québec, qui sont des voisins, par exemple, aujourd'hui, du géant russe, hein, avec Vladimir Poutine là, qui dirige la Russie, puis qui a des visées impérialistes. Il n'y en a aucun, qui dit « Oh non, je suis indépendant, puis je décide par moi-même, puis je suis chargé moi-même de ma sécurité.
Ouais. »
Alors, le Québec, on est comme les autres, puis même, on serait le pays... On le démontre aussi dans le livre bleu.
Ouais.
On serait très, très, très bien placé à l'échelle internationale aujourd'hui en matière économique, en matière de démographie, en matière de population, en matière de ressources naturelles, en matière de taille du pays, etc.
Parfait. Deux questions. Ben, en fait, trois. Vous allez devoir me répondre en 30 secondes. Et ça va être tough pour vous. Là.
Ça va être un défi.
Mais la première, c'est est-ce qu'on en prend en considération qu'advenant le cas où le Québec devient souverain, il va falloir partir avec une certaine portion de la dette canadienne? À cela va s'ajouter la dette québécoise. Est-ce qu'on pourrait être décoté? Qui a travaillé sur ces chiffres-là qu'on peut lire dans le livre bleu?
On a travaillé avec des économistes de grand renom. De grand renom.
C'était-tu des péquistes?
Non, pas du tout. Évidemment, nous, on a travaillé dessus. Ouais. Mais vous seriez étonnés, il y en a beaucoup qu'on peut pas nommer, là, mais tu sais, des gens qui partagent pas notre vision, des gens qui sont pas des péquistes. C'est ça qu'on a fait, parce que nous, on voulait pas arriver avec un truc. La première critique, c'est bon, là, tu sais, les fleurs vont pousser sur le béton dans un Québec souverain. C'est pas du tout ça. Donc, sur le partage de la dette, là, c'est tout calculé, c'est tout détaillé. Mais à la base, dites-vous que c'est prévu notamment par le droit international. C'est pas comme s'il n'y avait pas de règles. Puis la règle, c'est que la dette contractée par le Canada appartient au Canada. Puis la dette contractée par l'État du Québec appartient au Québec. Alors que les actifs, bien sûr, là, les édifices, les terrains, ils appartiennent au fédéral. Puis ceux du Québec appartiennent au Québec. Donc, c'est une négociation.
Mais on part avec un 20-24% de la dette canadienne, si jamais on
part. On part avec zéro de la dette, parce que la dette, elle a été contractée par le gouvernement du Canada, d'où le fait que tout le monde pense tout le temps, « Oh, pauvre petit Québec, là, on va aller s'asseoir en position de faiblesse face au fédéral. » Ben non. Ça, c'est pas le Parti québécois qui dit ça. Ce sont les règles de succession d'État, parce qu'on n'est pas les premiers, je vous l'ai dit, là.
Je vais vous avouer quelque chose. Celui-là, vous me l'apprenez, parce que j'étais persuadé qu'on avait une portion de la dette canadienne qui nous appartenait à long terme.
Ben nous, bien sûr, nous, Parti québécois, on dit... Bien sûr qu'on va vouloir être des bons joueurs, puis qu'on va vouloir négocier pour prendre, on va vouloir notre part des actifs, puis on va vouloir notre part de la dette. Mais la règle de départ, c'est que la dette contractée par le gouvernement fédéral appartient au gouvernement fédéral. Comme vous, la dette contractée par votre voisin, elle vous appartient pas. T'sais, même si vous avez des territoires, des maisons contiguës. Donc, la règle de départ, c'est ça, puis il va y avoir une négociation de bonne foi qui va s'enclencher. Comme il y en a eu dans plein de cas ailleurs dans le monde, parce qu'on ne sera pas les premiers à passer par là.
Sinon, y a-t-il d'autres choses qui vous motivent là, à travers ce livre bleu? Là, je vois que ce sera la fin de la monarchie, ça. Je veux dire, ça sert à rien depuis des années. Là. On va remplacer la monarchie par une république avec à sa tête un président de la république. Concrètement, qu'est-ce que ça va donner un président de la république? Je suis en train de refaire mon CV d'ailleurs. Là.
Mais ça va être qu'on... Pensez-y. Mais ça va être qu'on va être un pays normal. La monarchie, là, c'est de plus en plus l'expression. Imaginez, c'est un roi qui, dans la Constitution, dirige notre pays. Il n'y a plus personne qui veut ça en 2026. D'ailleurs, les Québécois rejettent massivement la monarchie, qui nous coûte une fortune. Ça coûte cher, ces institutions-là, là, qui sont absolument antidémocratiques. Puis là, tu avais le gouvernement de la CAQ qui promettait d'abolir la fonction de lieutenant-gouverneur. Non seulement, parce que ça, vous savez, leur plan là d'avoir des gros gains puis de changer le Canada de l'intérieur, ça s'est jamais réalisé. Il y avait cette promesse-là. Non seulement, ils l'ont pas aboli. Moi, j'étais là en chambre, là à chaque fois qu'il y a de la lieutenant-gouverneur vient nous parler. Là, puis ils se lèvent tous pour l'ovationner. Puis ils sont fiers d'avoir la représentante de la reine dans la maison de la démocratie québécoise. Puis là, ils nous ont hués quand nous, on est sortis en disant « Hey, ça, c'est pas notre chef d'État. Là. Elle n'est pas démocratiquement élue. » Ben c'est ça, les changements que ça va amener. Le livre bleu, là, il dit « Voici ce qu'on va pouvoir faire en étant maître chez nous. » Puis ça nous ouvre tellement de possibilités sur des nouvelles façons. Tu sais, là, on n'est plus rien qu'une monarchie, puis une vieille constitution de 1867. Hey, c'est des bonhommes en 1867 qui ont dessiné des contours de comment on marche actuellement au Canada, alors que nous, on dit « Hey, on va pouvoir se faire quelque chose de moderne, d'innovant. »
Là-dessus, je vous suis. On aurait notre propre armée?
Oui.
OK. Donc, c'est les militaires qui travaillent actuellement à base militaire de Valcartier pourraient se convertir à l'armée québécoise.
Exact. Okay. Donc, on va offrir à tous, on parle, c'est à peu près 20 000 des militaires de l'armée canadienne qui sont des Québécois ou qui sont basés au Québec. Donc, bien sûr, on va leur offrir l'opportunité de se joindre à l'armée du Québec. Ceux qui veulent pas le faire pourront décider de continuer à être des soldats de l'armée canadienne. D'ailleurs, même chose pour les fonctionnaires fédéraux qui voudront continuer à travailler pour le Canada, ils pourront le faire. Parce que, soit dit en passant, personne ne va perdre automatiquement son passeport canadien. Tout le monde va avoir automatiquement un passeport québécois, mais les gens qui voudront garder la double nationalité, le Canada le permet, donc pourront le faire, puis pourront continuer à travailler là où ils le veulent. Mais donc, il y a une armée québécoise qui va être constituée, qui va ressembler à des armées de plusieurs pays dans le monde, de taille similaire au Québec, qui se distinguent parce qu'ils spécialisent dans leurs forces armées. Puis n'oubliez pas, le Québec pas le Canada, le Québec a déjà une industrie militaire de fine pointe. C'est pas tellement connu, mais on est très bon notamment dans tout ce qui est l'aéronautique. On est très bon dans certaines composantes pour les avions, des munitions, etc. Donc, il y a un historique québécois sur lequel on va pouvoir miser, puis on va avoir une armée très respectable, solide, comme celle de plusieurs pays de taille similaire au Québec.
Je peux vous dire, Pascal Paradis, que c'est l'entrevue qui a fait le plus jaser sur les internets qu'on fait actuellement. Il y a énormément d'auditeurs qui vous écoutent, qui ont des questions à poser. Peut-être qu'on aura l'occasion de se reparler dans les prochaines semaines, mais si je veux lire ça pendant mes vacances, là, je peux-tu acheter ça dans toutes les bonnes librairies? Ça fonctionne comment, le livre bleu? Je peux-tu me le procurer quelque part?
Ben là, il est disponible en ligne, hein? Donc toute personne peut aller le voir en ligne. Il est notamment sur le site du Parti québécois. Là, sur les modalités, j'en parlais encore hier, là, sur les modalités là, de la publication papier, j'ai pas encore tous les détails là, parce que je veux pas vous dire de choses qui sont pas vraies ce matin. Mais je vous enverrai l'information dès que je l'ai. Mais en tout cas, en ligne, il est disponible au complet actuellement à pq.org.
pq.org/livre bleu, vous allez tomber dessus. Pascal Paradis, c'est toujours un plaisir, toujours des belles discussions.
Même chose.
C'est le fun de se coltoyer un peu.
C'est le fun, toujours agréable. Alors, je reviendrai pour jaser avec vos auditeurs du Livre bleu.
Salut, bye-bye.
Merci.
Pascal Paradis, député de Jean Talon pour le Parti québécois. On parlait de la venue du ministre Charrette en studio tantôt, ministre des Transports. On a parlé, du troisième lien, on a parlé du pont de l'île d'Orléans, on a parlé du pont Pierre-Laporte, pont de Québec. Puis j'avais demandé à M. Charrette, advenant dans le cas où il y a un changement de gouvernement, le PQ, peux-tu se retirer de la fameuse décision de la Coalition Avenir Québec d'aller en appel d'offres international? Puis de ce qu'on comprend, c'est que le PQ se retirerait de ça. Donc, pendant 4 ans, c'est sûr et certain qu'on n'avancerait pas plus dans le dossier du troisième lien. Eux, de leur côté, je pense qu'ils misent un peu plus sur le tramway de Québec pour régler un problème de circulation. En même temps, je regarde le réseau de transport à Montréal qui est hyper efficace là, pour avoir été à Montréal pendant quelques mois. Tu sais, j'avais pas besoin de voiture. Tu sais, j'étais à Montréal, j'avais pas de voiture, j'étais dans le métro, j'avais le réseau de transport de Montréal aussi qui était assez efficace. Mais le métro, les autobus à Montréal présentement, ça règle pas le trafic à Montréal présentement.
Ben non, c'est ça.
Fait que là, on nous dit que ça pourrait régler une certaine partie du trafic à Québec. Je pense que si on prend une décision à gagne que maintenant, c'est des gratte-ciels qui vont se construire aux abords du tramway. En bout de ligne, ça va être un peu plus concret, là. Des beaux projets comme on a ici à Place Fleur-de-Lys, Jacques-Saint-Ève. Tu sais, c'est des milliers de personnes qui vont habiter dans ce secteur-là, ouais, qui vont travailler dans ce secteur-là. Ça va être un milieu de vie. Tu vas être entraîné, tu vas aller à piscine, tu vas aller au parc. Tu vas pouvoir tout faire ça à pied. Bien, ces gens-là n'auront pas besoin de sortir de ce petit quadrilatère-là, ce quadrilatère-là immense, en fait. Ils vont faire tout le truc-là, donc ils n'auront pas de voiture. Si on mise là-dessus à long terme, peut-être que ça peut faire une différence, mais c'est pas moi qui vais aller dans le tramway. Je vais peut-être le prendre une fois, mais je suis pas vrai que je vais aller faire mon épicerie en tramway. C'est pas vrai que je vais aller porter mes gars à l'aréna ou moi-même aller jouer au décoquet en tramway. Ça réglera jamais ça.
Le tramway qui se rend même pas à l'aéroport. Là, vous allez me dire, non, c'est malhonnête, ton affaire, il se rend à l'aéroport en phase 3 ou en phase 3 dans 15 ans en fonction des gouvernements qui seront là puis qui allongeront l'argent ou qui nous diront qu'il faut reporter parce qu'on n'aura pas l'argent. Donc, ça reste quand même un tracé sur une ligne d'ouest en est. Donc, si ça ne fait pas partie de ton trajet, tu ne le prendras pas, le tramway, il y a aussi ça, là.
On fait une courte pause, il est 8h35, vous avez des choses à nous dire, 418-971-1021, 418-971-1021.
Juste vous dire...
Allume ton micro.
Oui, juste vous dire, il y a des petites choses sur les routes, mais en général, ça circule bien. Donc, 20 direction ouest, petit ralentissement dans le secteur de Taniata. Même chose pour Henri IV, direction sud sur Charest et Laurentien, direction sud pour entrer sur Capitale. Faites bien attention à l'aquaplanage.
La circulation présentée par...